unifier, comment homogénéiser cet ensemble finalement disparate sur le plan géographique d'une part, puis peut-être aussi d'ailleurs sur le fond, parce qu'on entendait dans le sujet d'Amira Sweelheim cette lecture post-coloniale, qui est valable évidemment notamment pour l'Afrique, pour l'Inde aussi, mais qui n'est pas valable par exemple pour la Russie et la Chine, qui se revendiquent eux aussi de cet ensemble en conflit avec l'Occident.
Alors, c'est simple, c'est qu'il y a effectivement une bascule de l'ordre du monde, de l'axe géopolitique, n'est-ce pas ? Il y a une demande en fait de redistribution multiple polaire des responsabilités planétaires. Et alors évidemment, dans ce sud global, je dirais que tous les acteurs se veulent égaux, mais que comme dans la ferme des animaux de Orwell, il y a quand même des animaux qui sont plus égaux que d'autres. Et il y a ces fameuses puissances, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, comme la Russie, très agressive, mais aussi comme la Chine, comme l'Inde. Alors, qu'est-ce qui les unit ? Ce qui les unit, c'est la désignation, en fait, d'un ennemi commun.
La contestation de l'hégémonie de l'Occident, justement.
Voilà. Cette hégémonie, effectivement, le reportage l'a montré, elle est finie. L'Occident ne contrôle plus du tout, par exemple, les Nations Unies, à l'exception du rôle qui jouent, évidemment, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni au Conseil de sécurité, de leur droit de veto, lequel, d'ailleurs, est très contesté, très, très controversé, n'est-ce pas ? D'autres pays veulent accéder. Et on voit que pour le reste, aussi, des organisations fleurissent, qui sont des forums internationaux, qui ont plus ou moins de consistance. Mais par exemple, regardez les BRICS. Au départ, c'est une idée d'un investisseur de Goldman Sachs qui a des pays qui vont alimenter...
En fait. Les BRICS, donc il y a 15 ans, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, au départ.
Chine, et puis va venir un peu plus tard l'Afrique du Sud. Bon, c'est l'idée que ce sont des pays à fort taux de croissance, donc ils vont alimenter, en fait, quoi ? L'économie mondiale. Voilà. C'est en fait une désignation économique. Elle prend aujourd'hui une dimension politique et géopolitique.
Cette affirmation sur la scène mondiale de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, de la Turquie, c'est l'émergence de nouveaux empires, d'après vous ?
Oui, alors parmi, effectivement, dans ce sud global, il y a des acteurs qui sont étonnants, de puissance, mais ils ont, pourquoi ? Parce qu'ils ont aussi une histoire. Ils ont une histoire impériale qui a été largement entravée, à la fois, effectivement, par la colonisation européenne, mais aussi par leur propre européanisation ratée.
Donc il est multi-leader, ce sud global.
Voilà. Et donc ce groupe-là, effectivement, il y a une unité. Lorsque vous regardez à Vladimir Poutine, lorsque vous regardez Recep Tayyip Erdogan, Ali Khamenei, à Xi Jinping et Narendra Modi, vous avez le même système, en fait, de revivification identitaire sur un socle religieux.
C'est une résurgence. C'est une résurgence de vieux empires.
Une réelle instrumentalisation. Et puis vous avez des propos. Vous avez ensuite à l'intérieur, en politique intérieure, une logique de répression contre tout ce qui est opposition ou minorité. Et puis vous avez à l'extérieur le non-respect du droit international avec des projets d'expansion. Mais ça veut dire que ces gens-là sont prêts à dominer le fameux Sud global, parce que le Sud global, c'est aussi beaucoup de réalités diverses, pas du tout bellicistes, pas du tout expansionnistes, et qui réclament en fait plutôt un sens d'un monde plus juste, mieux partagé, surtout du point de vue des richesses et des technologies.
Ça veut dire que longtemps aussi, l'Europe, le monde occidental, s'est voulu un modèle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est terminé, ça ? Le modèle occidental, est-ce qu'il fait encore recette ?
Il est terminé parce que vous voyez bien qu'il y a une contestation de l'universalisme supposé de ce monde occidental. Et cette contestation, elle vient surtout du fait que ce monde occidental lui-même n'est pas à la hauteur de sa prétention éthique et morale. Voyez en fait que la guerre d'Irak, le faux prétexte pour la guerre d'Irak, le fait que Saddam Hussein prétendument détenait des armes chimiques, cette guerre préventive à rebours de toute théorie, je dirais, internationale de la guerre. Une guerre, c'est défensif, c'est pas préventif. On n'a pas le droit d'aller cogner comme ça parce qu'on pense que demain, il y aura un danger. Donc cette guerre qu'a menée George W. Bush, toutes les guerres, en fait, qu'a menée l'Amérique au Proche-Orient pour venger le 11 septembre, n'est-ce pas ? Et venger, au sens propre. Mais ces guerres-là, effectivement, qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous voulez qu'elles soient reçues par les pays du Sud ? Alors, est-ce que dans les pays du Sud, on aime Vladimir Poutine ? Est-ce qu'on a de bons souvenirs de l'Union soviétique ? Est-ce qu'on aimerait être, en fait, sous le joug du Kremlin ? Non, mais cette musique, il y a deux poids, deux mesures. L'Occident professe, en fait, tout l'universalisme des droits de l'homme dont il profite pour asseoir son hégémonie, bien sûr que tout ça a un écho.
Ouais. Justement, ce modèle occidental ou cette hégémonie occidentale est contestée, remise en cause sur bien des points. Vous l'évoquiez sur le plan éthique, moral, sur le plan économique aussi. Et puis, dans un autre domaine, Jean-Mathieu, vous nous dites, vous, que le business du sport, lui aussi, et l'organisation des grandes compétitions mondiales de sport, désormais, glisse de plus en plus vers le sud.
Eh bien oui, parce que c'est officiel, hein, depuis deux semaines, l'Arabie Saoudite va donc organiser la Coupe du Monde de football 2034. Alors, accueillir la plus grande compétition de ballon rond dans un pays, il faut bien le dire, où la culture footballistique, bon, c'est pas trop ça, et notamment aux températures étouffantes, il y a quelques temps, cette annonce nous aurait paru un peu étrange. Mais pas depuis décembre 2022 et la Coupe du Monde au Qatar. Alors, il faut bien dire, c'est une compétition qu'on a un peu oubliée en France, notamment à cause de cette finale, hein, Renaud, contre l'Argentine. Et pourtant, cette compétition a existé, je vous assure, pour des milliards de gens dans le monde, pour situer tout simplement le petit émirat sur la carte du monde, le Qatar. Et si dans de nombreuses disciplines, eh bien, les sportifs occidentaux raflent toujours les médailles, l'organisation de ces manifestations, elles, eh bien, sont de plus en plus l'apanage, en fait, des nouvelles grandes puissances comme la Chine, mais surtout les pays du Golfe. Regardez, en Formule 1, par exemple, il y a 4 grands prix désormais qui se déroule dans la péninsule arabique. On ne compte plus les matchs de boxe, de tennis, de golf et même des rencontres délocalisées du championnat de basket américain. Alors depuis une quinzaine d'années, le soft power par le sport devient l'un des axes de développement de ces pays. Ils profitent tout simplement de la réticence de plus en plus grande de populations, notamment européennes, à organiser des grands événements, notamment en matière écologique ou des gouffres financiers. D'ailleurs, pour l'organisation des Jeux Olympiques qui suivront Los Angeles et Brisbane, ceux de 2036, donc le Qatar travaillerait déjà à sa candidature. Mais le pays le plus en vue pour ces Olympiades, donc 2036, c'est l'Inde, figurez-vous, de Narendra Modi. Les épreuves se dérouleraient à Ahmedabad, dans l'ouest du pays. À noter qu'aussi Istanbul fait partie des favoris pour 2036. Alors on le voit, Jean-François Colisimo, Qatar, Inde, Turquie, cette liste de candidatures olympiques. Est-ce qu'elle dit un peu une bascule finalement du monde vers le sud, tout simplement, qui pourrait organiser ces grands événements qui étaient un peu l'apanage avant de l'Occident?
Oui, mais c'est peut-être bon que l'apanage, je dirais, cesse. Vous voyez, des revendications comme celle-là, en fait, être partie prenante d'une culture mondiale via le sport. Enfin, on souhaite quand même pour l'Arabie Saoudite que ça ne soit pas le seul point, le sport, n'est-ce pas ? Hein, il y en a d'autres.
Ouais, bien sûr.
Il y en a d'autres, si on veut faire de l'universalisme. Bon, mais cette volonté de prendre parti, comment elle pourrait être autrement que bienvenue, puisque nous sommes effectivement dans la mondialisation. Ouais. Maintenant, lorsque vous avez des affirmations de puissance et de conflit, il en va tout à fait autrement. Et d'ailleurs, je répéterai ça, vous voyez, l'Inde, finalement, elle n'a pas de véritable volonté expansionniste, si ce n'est, elle a le problème du Cachemire, elle a le problème de l'Himalaya. Avec la Chine, d'ailleurs, vous voyez bien d'ailleurs que ce club du Sud global connaît aussi des divisions très importantes,
des
inimitiés, des hostilités, n'est-ce pas, fortes. Mais bon, l'Inde n'a pas de volonté autre que de devenir un géant économique. De ce point de vue-là, l'Inde est bienvenue.
Il y a un événement, Jean-François Colosimo, qui a surpris, stupéfait même les Occidentaux que nous sommes, c'est lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, et par la suite, il y a de nombreux pays de ce sud global, on va dire, des États asiatiques ou africains encore plus particulièrement, qui ont refusé de condamner l'agression russe.
Oui.
Qu'est-ce que ça disait, cette décision, justement?
D'abord que ça semblait un conflit très lointain, un conflit entre Européens, justement. Deuxièmement, que on ne voulait pas essayer de trancher dans le sujet pour dire qu'il y aurait une justice. C'est une façon de dire, quand il y a la guerre chez vous, quand pour une fois elle n'est pas chez nous, vous voudriez qu'on se mobilise et que ça devienne en quelque sorte le nombril du monde. Mais nous faisons partie de ceux qui ont eu des guerres tellement oubliées, minorées, des guerres sans fin, des guerres sans armistice, des guerres qui ont pu reprendre de manière intermittente. Enfin voilà, c'est pas parce que l'Europe connaît à nouveau la guerre que la guerre n'est pas une réalité partout ailleurs dans le monde.
Alors vous le disiez tout à l'heure, parmi les pays du sud global, certains sont plus égaux que les autres. Disons que tous ne pèsent pas le même poids. Il y a un géant économique et démographique qui les surpasse tous. C'est la Chine, bien sûr, la Chine, qui cherche des alliances internationales pour promouvoir ses intérêts. Nous en avons débattu cette année sur...
Vous parlez des différents empires, donc l'Iran, la Turquie, l'Inde, la Russie, mais est-ce que finalement ce n'est pas la Chine, avec son 1,5 milliard d'habitants et son énorme PIB, qui se projette comme la prochaine hégémonie mondiale?
C'est certain que la Chine, c'est la prétendante absolue. D'ailleurs, vous voyez qu'elle cherche tout de même, je vais employer le terme, à coloniser en partie à son profit les richesses, au moins minières, de l'Afrique, n'est-ce pas ? Elle est face aux États-Unis dans le Pacifique. La Deuxième Guerre mondiale pour l'Amérique, c'est pas les plages de Normandie, c'est le Pacifique, c'est ça, et c'est le bassin de demain, comme l'a été jadis la Méditerranée ou comme l'a été hier l'Atlantique. Donc cette Chine-là, elle a une prétention mondiale, mais pour l'instant, elle est surtout économique à travers ces nouvelles routes de la soie.
C'est ça.
Elle n'a de visée véritablement que sur Taïwan, tout en continuant, malgré tout, sachons-le, à étrangler le Tibet. Est-ce qu'elle est une candidate sérieuse à l'hégémonie planétaire? Alors ma réponse à moi, c'est non. Alors je vais vous dire pourquoi, pour deux raisons. La première, qui est d'abord, je dirais, inhérente à l'histoire de la Chine, c'est que la Chine n'a jamais su tenir son unité au cours de développement fulgurant entre les zones portuaires et le centre. Et la deuxième, c'est que si vous voulez l'hégémonie mondiale, il faut être comme les États-Unis. Il faut être dans une relation d'amour-haine avec l'Europe, parce que c'est l'Europe qui a fabriqué la mondialisation. Alors justement, il faut produire une culture mondiale qui soit attirante.
François Colissimo, justement, à propos d'Europe, il y a aussi, eh bien, il y a un pays qui est assez étonnant, parce que alors lui, il est presque, on pourrait dire, un cas de schizophrénie, hein, de géopolitique, c'est la Turquie. Comment expliquer que c'est un pays qui est à la fois un pied dans l'OTAN et un pied dans l'anti-occidentalisme?
Ah ben, je trouve votre question excellente. Comment se fait-il que ce pays qui est dans l'OTAN menace tous les États, Chypre et la Grèce, qui sont dans l'Union Européenne et la Grèce dans l'OTAN? Comment se fait-il que ce pays qui est dans l'OTAN s'allie avec l'Azerbaïdjan pour réduire à néant l'Arménie? Comment ce pays qui est dans l'OTAN, on le laisse avancer en fait en Syrie et certainement demain essayer de réduire là aussi à néant les Kurdes qui pourtant ont été nos alliés contre Daesh, ont fait le boulot. Aujourd'hui, en fait, la Turquie s'installe dans le rôle de médiateur parce qu'elle joue en fait sur tous les tableaux. Le tableau de la revanche ottomane, l'Empire ottoman, la revanche de l'islamisme, Erdogan est un frère musulman typique, n'est-ce pas, dans sa doctrine, la revanche de la turcité ou de la turquité, etc. Et en fait, en même temps, il se présente comme un bon courtier de Washington. Et l'Europe laisse faire.
Juste un mot, justement, sur la dimension militaire aussi de ce nouveau désordre mondial. Vous évoquiez le rôle de l'OTAN. On voit aussi que cette contestation de l'Occident intervient aussi sur le plan militaire, avec des alliances, là aussi. On voit des renforts nord-coréens qui vont aider les Russes dans la guerre en Ukraine. On voit l'Iran qui livre des drones. Est-ce que tout ça, c'est pas dû aussi, justement, au retrait américain, retrait militaire des États-Unis, des affaires du monde, en quelque sorte? Ils ont laissé la place libre.
Et surtout, à un signal terrible, le retrait complètement bâclé d'Afghanistan. Comment pouvez-vous expliquer au reste du monde que vous êtes intervenu militairement en Afghanistan pendant 22 ans, avec un coût humain, moral, financier, mais abyssal? C'est des 3500 milliards de dollars, 100 000 morts. Pas simplement militaires, victimes civiles et autres. Tout ça parce qu'il ne fallait pas laisser la barbarie des talibans s'installer. Et vous partez en donnant les clés aux talibans. Et lorsqu'ils vous disent en plus, non mais on a changé, vous allez voir, on est devenu sympathique, vous dites bravo, merci. Il n'y a même pas un traité de sortie. Alors ça a été un signe, je pense, par exemple pour Poutine, de se dire, c'est bon, je peux y aller en Ukraine.
Alors Jean-François Colosimo, de l'Afrique francophone aux confins de la Russie, de la mer du Chine au Proche-Orient, on conteste donc de plus en plus fort l'hégémonie occidentale et on en a justement
dans le monde où l'Occident et le Sud global se rencontrent, c'est l'ONU. Voilà. Mais l'ONU, il y a un conseil de sécurité où il y a 5 membres, bien sûr, on les connaît, hein, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et on voit énormément de pays africains qui disent il faut qu'on soit aussi représenté, que ce continent soit représenté. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, c'est en marche ou alors c'est un rêve vain?
Aujourd'hui, la mécanique onusienne, d'abord, elle ne fonctionne pas. Vous pouvez prendre toutes les résolutions que vous voulez, dans tous les endroits du monde que vous voulez, elles seront totalement sans effet. Deuxièmement, après 1990, on a pensé, d'un coup, il y a eu une forme de frénésie, des opérations de maintien de la paix ou de sécurisation sous l'égide des Nations Unies. Bon, ben, on s'est rendu compte que soit elles n'aboutissaient pas, soit elles duraient indéfiniment. Bon. Donc on voit que toute cette mécanique, le machin, le bidule, comme disait le général de Gaulle, n'est-ce pas, ne fonctionne pas du tout. Et aujourd'hui, effectivement, la grande contestation, c'est celle des 190 autres membres qui disent pourquoi ces gens-là, n'est-ce pas, ont un droit de veto dont nous ne disposons pas. Et qui a un droit de veto qui vraiment bloque, du coup. Bon, il faut savoir tout de même que l'opposant numéro un à l'accession de l'Afrique du Sud, puisque c'est le pays d'Afrique qui présente une forme de puissance, d'industrialisation, de modernité, de ressources financières, etc. Mais le principal opposant à la revendication de l'Afrique du Sud, c'est la Chine. Mmh. C'est la Chine qui ne veut pas entendre parler de l'Afrique. Il faut bien se rendre compte que de ce point de vue-là, vous voyez, ces cinq membres peuvent se déchirer entre eux, mais ils vont retomber d'accord sur une forme de statu quo. Nous, par exemple, est-ce qu'on est prêt à céder notre poste à Bruxelles, à l'Union européenne? Mais pas du tout, enfin, je veux dire d'ailleurs...
La simple perspective soulève à chaque fois un tollé lorsque cette question arrive.
Un tollé, c'est un tollé immédiat.
Bien sûr.
Donc vous voyez bien que, en fait, vous êtes face à un organisme qui ne remplit plus d'autre fonction que d'émettre des pétitions de principe.
Nadia, il y a